De la Terre à la Lune, épisode 6. Les Américains sont allés sur la Lune, affaire classée. Bon, et on fait quoi maintenant? Le bilan purement comptable des missions Apollo n'est pas mirobolant, si on prend en compte les seules missions qui ont emmené des hommes sur la Lune. Sur les 18 000 tonnes envoyées, seules 30 en sont revenues, soit 0,2%. Pour être précis, il y a aussi les 400 kilos de roches lunaires, qui représentent 0,0002% des 18 000 tonnes. Il est temps de revenir à des choses plus sérieuses. La logique aurait voulu qu'à la suite des premiers vols en orbite terrestre, des humains restent en permanence dans l'espace à bord de stations spatiales. Le programme lunaire coûte très cher et les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam. Le jour où Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, il y a un demi-million de soldats américains au Vietnam. Le programme Apollo est amputé de ses trois derniers vols. La dernière fusée Saturn V est utilisée pour lancer une station orbitale, Skylab. Elle est lancée le 14 mai 1973 sans équipage. Mais dès le début, les ennuis surviennent. La moitié des panneaux solaires ne se déploient pas. Plusieurs protections thermiques sont arrachées. La température monte jusqu'à 77 degrés dans la station. Le premier équipage joue donc les mécanos. Trois missions habitées se rendent successivement à bord de Skylab. Mais les plannings sont durs à respecter à cause de nombreuses pannes et de la difficulté à travailler en apesanteur. Un détail qui n'aurait pas été pris en compte lors de la rédaction des plannings. Ce qui a le don d'exaspérer les astronautes qui commencent à se rebeller. L'expérience Skylab tourne court. La station ne sera occupée que 6 mois sur les 6 ans de sa présence en orbite. C'est que la NASA est pleinement occupée par un nouveau projet, la navette spatiale. On prévoit de se rendre vers Skylab avec la navette, mais la navette ne vole qu'en 1981. Skylab est désorbité et désintégré dans l'atmosphère en 1979. Même si la première station orbitale américaine n'est pas un franc succès, elle aura quand même pu permettre de collecter de nombreuses informations sur les vols spatiaux de longue durée et leurs effets sur l'organisme humain. À partir de 1972, l'avenir de l'homme dans l'espace est limité à l'orbite terrestre. Au grand désarroi de Wernher von Braun, qui voyait des humains atterrir sur Mars dès 1983. Il démissionne de la NASA la même année. Les soviétiques, de leur côté, lancent plusieurs stations spatiales, avec plus ou moins de succès. En 1977, ils commencent une longue période fructueuse avec les stations Salyut 6, Salyut 7 et Mir, en battant des records de durée dans l'espace. Les États-Unis privilégient surtout les missions courtes avec la navette spatiale. Mais son utilisation est complexe, coûteuse et dangereuse. La destruction de la navette Challenger et la mort de son équipage font douter. En 1998, commence l'assemblage de l'ISS, dont la carrière est prévue de durer jusqu'en 2024, voire 2028. Et ensuite, on fait quoi ? Paradoxalement, le retour de l'homme sur la Lune passera par Mars. La Lune posséderait un élément très prometteur, l'hélium-3, qui constituerait un carburant disponible en abondance sur sa surface. La Lune a donc de nombreux atouts pour devenir le port spatial de la Terre en vue de l'exploration du cosmos. Le programme Deep Space Gateway, portail pour l'espace profond, prévoit de mettre une station spatiale en orbite lunaire. Cette station pourra servir à l'exploration et à l'exploitation lunaire. L'Agence spatiale européenne, elle aussi, a un projet de base lunaire dans ses cartons. Sa construction serait réalisée par des imprimantes 3D qui utiliseraient la roche lunaire. Elle envisage la création de cette base pour 2025. Au moment où j'enregistre cette chronique, la NASA a pour mission de revenir sur la Lune en 2024. Ces projets, aussi enthousiasmants qu'ils soient, pour tout passionné d'astronautique, sont quasiment irréalisables dans cette échelle de temps. Ils vont rencontrer des problèmes techniques et surtout politiques. Il ne faut pas se leurrer, la conquête de l'espace en général et de la Lune en particulier fait régulièrement les frais des changements politiques. Le retour de l'homme sur la Lune du côté américain, c'est l'Arlésienne. Tous les 10 ans, le président annonce le lancement d'un programme. À chaque fois, son successeur l'enterre aussi vite qu'il est apparu. Les dirigeants politiques suivent aussi l'opinion. La conquête spatiale est difficile à vendre. Qui n'a jamais dit ou entendu la fameuse phrase « Pourquoi envoyer tous ces trucs dans l'espace avec toute la misère qu'on a sur Terre ?» Les retombées sont pourtant significatives. La couverture de survie a été conçue pour protéger certaines parties du LEM, le GPS. Les communications téléphoniques par satellite, très utiles après des catastrophes naturelles. L'accélération du développement de l'informatique. Pour la petite histoire, au début des années 60, la NASA achète 60% de la production mondiale de circuits intégrés pour le programme Apollo. Mais il est vrai que la première course à la Lune était purement idéologique. Les Américains contre les Russes. Les Américains ont gagné, la guerre froide est finie. C'est vrai, pourquoi y retourner? Pourquoi continuer à explorer l'espace? Et pourquoi pas? Allez dire à la Pérouse ou à Magellan, non, vous embêtez pas à découvrir de nouvelles terres. C'est quasiment génétique. L'homme a toujours exploré. Les premières sondes sont envoyées dans l'espace en 1959, 2 ans avant Gagarine. Et je peux vous assurer qu'il y a un peu partout dans le monde des irréductibles rêveurs ou des explorateurs en puissance qui piaffent d'impatience à l'idée d'assister ou de participer à ces futures missions. Elles sont nombreuses, ces personnes, qui auraient aimé assister au premier pas de l'homme sur la Lune et qui seraient allées se coucher des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête. Nous sommes nombreux, ces passionnés qui veillent tard le soir sur Internet pour assister à un décollage de fusée ou à l'atterrissage d'une sonde sur un sol extraterrestre. Nous sommes nombreux à ne pas poser la question du pourquoi, mais la question du comment. Nous sommes nombreux et impatients de voir l'homme retourner sur la Lune. Nous sommes nombreux et curieux de savoir si ce fameux empereur chinois est bien arrivé et si les Sélénites l'ont bien accueilli. Nous sommes nombreux et contemplatifs lorsque nous la voyons dans le ciel. Il y a 50 ans, l'homme se posait sur la Lune et je vous ai raconté son histoire.